It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Phocéens en Amérique. Adi Raphaël au micro et à l'animation. Et je suis rejoint par Ludo parce qu'on a été complètement ignoré et complètement mis de côté de la vie de Julien qui nous laisse tomber pour des vacances. Bien mérité quand même, il faut le dire. Salut Ludo, comment ça va?
On voit quand même le centre des priorités. Hein. Au lieu de soutenir son club, de parler de l'OM, on préfère aller se prélasser en Espagne sur les plages.
Chacun son truc. Après, il me dit, ouais, moi je suis tout le temps là. Ouais, t'es tout le temps là. Ouais, c'est ça.
Non, en fait, c'est ça. Il a été là toute l'année pour pouvoir bien profiter de ses vacances et pas être là pendant l'intersaison agitée. Il a bien calculé son coup.
En tout cas, c'est sûr, ce n'est que des blagues. On lui souhaite de super belles vacances, bien, bien, bien méritées. Il bosse comme un fou.
Non, du tout.
Genre, bien, bien mérité.
Il passe de mauvaises vacances. On te retrouve bientôt.
Mais on a hâte de le revoir. Je pense que ça sera peut-être dans 2 ou 3 semaines. Je ne sais plus c'est quand son retour, mais on a encore quelques épisodes sans lui. Donc voilà, on dit bonjour à tous nos auditeurs. Merci de nous suivre et de nous écouter. C'est toujours très intéressant de vous voir réagir à nos podcasts quand vous avez le temps et ainsi de suite. Mais nous, ça nous fait plaisir. On est tout contents de faire ce pod. En tout cas, on parle de notre passion qui est l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, qu'on enregistre ou qu'on n'enregistre pas, on ferait les pods. Dans tous les cas, les discussions, elles sont toutes là, tout le temps là.
Parce que c'est club. On fait des pods un peu tous les jours au final, parce que je crois que tous les jours, on parle de l'OM sur WhatsApp. Donc.
Exact, parce que tu sais quoi, l'OM, c'est un club qui est magnifique et tellement passionnant. Bref, commençons tout de suite. Écoute,
je fais une parenthèse là-dessus, je me suis toujours dit. Comment font les supporters de Brest ou Lorient où il ne se passe pas grand-chose? Ils vont voir leur match, que ça gagne, que ça perd, ils s'en foutent et ils continuent leur vie normalement. Je crois qu'on serait incapable de vivre comme ça aujourd'hui. C'est tellement prenant pour nous et c'est tellement un facteur d'émotion positif ou négatif, l'OM, que je ne sais pas comment ils font les supporters des autres clubs pour que ça soit calme comme ça pour eux.
Sérieusement, il faut dire qu'il y a... Bon, je pense que même à Marseille, il doit y avoir des supporters qui sont un peu moins investis émotionnellement que nous. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ne pas s'investir complètement dans la vie d'un club. J'ai du mal à comprendre ça. Après, écoute, chacun a sa façon de supporter le club, right? Donc, voilà. Mais parlons un peu, Ludo, du match amico. Je vais être honnête avec vous. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le dernier match. J'ai vu le match contre Norwich, mais je n'ai pas vu le match contre Middlesbrough. Ça a été presque impossible pour moi de le voir. J'ai essayé de le revoir, puis je n'ai juste pas eu le temps, malheureusement. Mais je sais que toi, Ludo, tu as vu le match, défaite de 2-0 de l'Olympique de Marseille, sachant que le deuxième match qui était contre Norwich, c'était aussi une défaite de 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Le seul match de préparation gagné, c'était le match contre Marignane Gignac sur le score de 4-1, mais bon, bof. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parle-nous un peu de ce match-là, en général, contre Middlesbrough. Et après, on va parler un peu des résultats de Macharico. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, oui ou non?
Alors, si je réponds directement à ta question, je dis moi, non, je ne m'inquiète pas. Parce que déjà, c'est des matchs amicaux et qu'il n'y a rien à en tirer. On est en pleine préparation et qu'on sait très bien, par expérience, où on peut être les champions des matchs amicaux et faire une saison de merde et vice-versa. Donc, il n'y a pas de règle. Les matchs amicaux, ils sont faits aussi pour faire des erreurs, pour ajuster, pour voir ce qui te manque, pour progresser, pour faire des tests. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Et au-delà de ça, pour le match de Middlesbrough, comme tu me lances dessus, Tu prends la première mi-temps, donc c'était une équipe type, hein, on va dire quasiment une équipe type à part les pistons. On avait Lopez dans les cages. Derrière, on avait Mbemba à droite. On avait Gigot au centre, Touré à gauche. On avait Rongier, Guendouzi au milieu. Les pistons, qui effectivement ne devraient pas être les pistons titulaires, c'était Under et Kolasinac. Et devant, on avait le trio Payet, Gerson, Milik. Tu prends la première mi-temps, Middlesbrough n'a pas d'occasion. Tu es largement au-dessus d'eux. Derrière, Gigot, Mbemba, je vais avoir du mal ça à le dire cette année, je sais. Mbemba et Touré, moi j'ai trouvé ça costaud, j'ai trouvé ça complémentaire. J'ai beaucoup aimé de voir un coup Mbemba monter, un coup Touré aussi et se projeter énormément à l'avant. Et on les voit arriver régulièrement sur les 20 mètres, 18 mètres. Attention en Ligue 1 quand même, parce que sur les équipes qui jouent en contre, ça peut nous faire mal. Mais je trouve ça très intéressant et je trouve vraiment les trois complémentaires. Gigot, qui est dans son poste, on va dire, un peu plus intellectuel aussi, à placer et à organiser la défense en tant que patron. Mbemba, ben, on voit qu'il a l'expérience, que physiquement c'est costaud, qu'il est bon avec le ballon, qu'il est capable de se projeter et qu'il est propre aussi. Il a quand même beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Touré, ben, c'est vraiment une très belle surprise. À voir après ce que ça va faire, parce qu'il est encore jeune, si ça peut durer dans la saison, etc. Mais sur les matchs de préparation, c'est vraiment impressionnant, autant physiquement que techniquement. Donc, grosse, grosse surprise. Rongier Guendouzi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez que c'est solide au milieu, que c'est des chiens sur tous les ballons et que c'est pas mal. Et après, on avait, donc je ne parle pas des pistons parce que ce ne sera pas les titulaires. Et devant, on a Payet, Gerson et Milik. Payet, Gerson, c'est moi, je me régale à voir ce genre de joueur. Gerson qui a fait une très très grosse première mi-temps, qui était vraiment de partout, qui était très juste, qui est très affûté déjà techniquement. À la récupération, il était de partout, tout simplement. On voyait que lui. Et ben, après, on a Milik. Milik qui a raté 3-4 grosses occasions. Moi, vous savez ce que je pense de Milik depuis l'année dernière. Je ne vais pas me répéter pour ceux qui écoutent le pod. Ils savent que je commence à avoir beaucoup de mal avec Milik. Mais bon, là, il revient encore de blessure. C'était son premier, ses 45 premières minutes. Donc, il s'est procuré des occasions. On a eu quelques actions, sans que ce soit la folie dans le jeu, hein, on va être honnête. Mais on a vu des choses intéressantes. Kolasinac aussi, qui a fait 2-3 bons centres aussi, qui ne sont pas allés au fond. Voilà, tu sors franchement, à la mi-temps, tu sors à 3-0 pour l'OM. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas volé. Il y a deux pénaltys qu'on ne nous compte pas aussi. Le match, il est ultra dominé. Tu prends sur les couloirs, tu presses bien. Middlesbrough, c'est quand même à l'anglaise. Donc, physiquement, ils ont rentré dedans aussi l'OM. Ils ne leur ont pas fait de cadeau parce qu'ils sont prêts aussi pour la semaine prochaine. Donc, sur la première mi-temps, il te manque, pour moi, il te manque que le réalisme devant les cages de Milik. Tu vois, tu mets au fond de tes actions. Franchement, tu dis première période parfaite. Et après, la deuxième mi-temps, bah, tu fais rentrer Balerdi, tu fais rentrer Khaled Tatar, tu fais rentrer Gueye, tu fais. Enfin, voilà, après, c'est l'équipe B de l'OM. Et c'est là où ce qui me gêne un peu plus, c'est que tu sens que l'équipe B, malheureusement, elle n'est pas si forte que l'équipe A, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et que je pense que ton 11 pourrait être très bon, très performant. Par contre, est-ce que les doublures sur certains postes, ça va être assez efficace? Parce
Quel
que
poste,
moi,
par exemple?
ben là, en défense, quand tu vois, honnêtement, quand tu vois la deuxième mi-temps de Khaled Tchar, c'était une catastrophe. Il était en retard sur tous les ballons, il se faisait prendre de vitesse tout le temps, il était à
Ouais,
contresens.
mais on s'entend que
Balerdi, non
ceux
mais,
qui nous
Balerdi.
écoutent, ils savent que tu n'aimes pas Caetazar, donc
Non, mais après, ben
parle d'un
voilà,
autre
mais
joueur.
après Balerdi, c'est pareil. La seule circonstance
Oh, ok,
atténuante.
les
Attends,
amis. On va,
attends, attends,
attends,
attends,
attends, Ludo,
attends,
je vais te demander de
laisse-moi finir.
répéter cette phrase, s'il te plaît.
Non, Balerdi, ça a été une catastrophe aussi. Des problèmes de placement.
Oh, ok.
Des problèmes de placement. Il a encore fait une boulette, mais bon, si tu vois celle de Khaled Tchar avant, tu dis, bon, c'est pas lui le plus fautif, mais il fait quand même la boulette dessus. Et voilà, alors Balerdi, comme je te disais, à la limite, ça fait 8 mois qu'il n'a pas joué. Mais c'est des erreurs qu'on connaît de lui aussi et qu'on aimerait qu'il gomme. Mais voilà, donc c'est un peu mon inquiétude, c'est de dire, est-ce que derrière, on va avoir les joueurs en backup suffisant? Parce que Luan Perez, il va pas pouvoir remplacer les trois ou être titulaire et Touré faire le pendant. Donc ça, c'est ce qui
Bah
me gêne un
écoute,
petit peu.
regardons un peu les défenseurs centraux qu'on a sous contrat actuellement. Tu avais nommé les trois titulaires, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait pas encore c'est qui va être les titulaires. Mais
Bah, le
t'avais.
seul doute, honnêtement, le seul doute, c'est entre Touré et Luan Perez. Gigot et Mbemba, ils bougeront pas.
Encore une fois, moi, tant que je n'ai pas vu les 10 premiers matchs, je ne sais pas qui est le titulaire. Je comprends que sur papier, puis ça a l'air de ça, je comprends très très bien, mais tant qu'on n'a pas vu les 10 premiers matchs, je pense que même l'entraîneur ne sait pas qui va être le titulaire. Donc, voyons quels sont les défenseurs. Okay, si on compte les 3 défenseurs que tu as nommés, qui étaient Touré, Mbemba et Gigot, on va voir le reste. On a encore Alvaro qui est sous contrat. On a Belherdi qui est là. On a Luan Perez. On a Douye Tchaïtatsar et on a les petits jeunes, le Madi, et on vient tout juste de signer un défenseur central suisse pour la réserve, Rogerio Niakossi aussi. Donc, c'est des joueurs qui pourraient à ce moment-là, à terme, venir rejoindre l'équipe première, sans oublier, je ne sais pas si je l'ai nommé, mais Luan Perez qui est là aussi. Donc, bref, ça fait quand même beaucoup de choix. Donc, même si jamais tu as envie d'en avoir d'autres, il faut que tu vendes aussi parce que tu ne veux pas empiler des
Non, mais
défenseurs centraux.
on est d'accord, on ne va pas prendre des défenseurs centraux si on ne vend pas. Ça, on est d'accord. Par contre, je trouve qu'en termes de quantité, on a ce qu'il faut. En termes de qualité, pour moi, il y a un cap important entre les trois titulaires qui paraissent aujourd'hui et le reste. Pour moi, il y a vraiment une grosse différence
Mais
dessus.
comment ça se fait? Comment ça se fait, Ludo, que l'année passée, on n'avait aucun de ces trois-là? Et on avait quand même une
Ben,
très, très bonne défense. Oui, c'est vrai, il y avait Saliba
tu
qui est
perds
parti,
Saliba. Tu perds
mais
Saliba.
Douye Tchaïtatsar était là. Puis, que tu le veux ou non, il y a 80% des matchs, il a été très, très bon. Oui, il y a 20%, il a été très mauvais, complètement d'accord avec toi. Mais 80% des matchs, il a été quand même très, très bon. On a Luan Perez qui était là aussi et qui était très, très bon aussi.
Luan
Après,
Perez, ça ne
oui,
me dérange
aussi, il y a
pas.
une 20% des matchs qui n'étaient pas bons non plus. Donc, bref, en
Luan
gros.
Perez, ne me dérange pas. Mais c'est vrai que je t'avouerai que je me vois mal, par exemple, une bêtise sur les trois que je t'ai cités. Après, on verra. Hein. Mais allez, même si on met Luan Perez, parce qu'il y a peut-être plus d'expérience que Touré. Sur les trois que tu as, s'il y en a deux qui se blessent, je ne me vois pas aller en Ligue des Champions avec, quoi. Oui, pour affronter Reims, je n'ai pas de souci. Mais je me vois pas aller faire un match de Ligue des Champions avec Balerdi, Kalaitachar. Tu vois,
Mais Balerdi,
ça me
pour toi,
paraît
il était
compliqué.
titulaire. Qu'est-ce qui a changé depuis?
Non, mais non, mais Adji, je pense que ce joueur a un gros potentiel. Je ne suis pas contre qu'il soit titulaire en Ligue 1, qu'il joue des matchs de Ligue 1. Maintenant, si on va en Ligue des Champions, ça me paraît encore tendre. Il manque. On
Mais
parle aujourd'hui.
ça dépend. Quelles sont tes ambitions en Ligue des Champions? On s'entend que le but, c'est de finir deuxième, troisième du groupe, dépendamment du tirage, on s'entend, deuxième, troisième du groupe, ce serait ça le but. On n'a pas l'ambition d'aller en
Non,
demi-finale
mais
non plus. Donc,
juste de pas se faire surclasser. Juste de pas se faire surclasser.
ouais, mais ça dépend quel est ton tirage au sort. Hein. Je suis désolé, mais
Hey,
Douye Tsaïtsa contre.
t'es chapeau 4, ça va être compliqué. Mais moi, je me vois pas aller en Ligue des Champions avec Kalaitachar, je me vois pas y aller. Je me
Ben, tu
vois
sais,
vraiment
c'est
pas y aller.
bizarre parce que beaucoup de clubs de Ligue des Champions étaient sur lui. Hein. Donc, après,
Eh
encore
ben
une
écoute, on
fois, je
n'arrive
pense
pas à le
qu'on revient
vendre.
au système. On revient au système. Je comprends,
Ah,
système trois
mais
défenseurs centraux,
ça je l'ai
système deux
toujours dit.
défenseurs centraux. Hein, donc,
Adji, ça, tu ne peux pas me l'enlever. J'ai toujours
mais.
dit que Kalaitachar peut être un très bon défenseur dans une défense à 4. Dans un système à 3, il n'est pas adapté.
Hein, je
Parce
comprends.
qu'on joue trop haut, il a besoin de vitesse.
Parlons un peu du reste de ce match-là. Tu as parlé de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui est mal allé dans cette deuxième mi-temps contre Middlesbrough? Est-ce que tu as dit comme quoi il y a eu l'équipe B, entre guillemets, parce que c'est quand même des joueurs de rotation de l'équipe A, quelque part, avec les Pape Gay, les Balerdi, les Tchaletatsar, tout ça, ce n'est pas des petits jeunes, hein, c'est des joueurs sur qui
Non, mais
l'entraîneur va
alors,
compter. Hein.
si tu veux, pourquoi je suis aussi sévère? Parce que je ne peux pas commencer à dire c'est des matchs amicaux, il faut en tirer aucune conclusion et après leur taper dessus. Parce que ce qui me gêne, c'est que c'est des erreurs qu'on a souvent vues chez ces joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est des erreurs en disant bon, c'est le début de saison, ils ne sont pas encore prêts, machin, etc. Ça, c'est une chose et c'est vrai. Tu le vois que physiquement, ceux qui étaient en deuxième mi-temps, tu sentais qu'ils étaient moins prêts que les 11 en première mi-temps. Il n'y a pas de souci. Mais quand on revient aux deux que j'ai dit, ben, tu sens que c'est des erreurs qu'ils ont fait dans le passé et qu'ils font encore. Et c'est là où tu te dis, ben, en fait, tu n'as pas de progression avec eux. Et c'est là que c'est emmerdant. Après, pour le reste, sur la deuxième mi-temps, on a quand même vu l'entrée de Clauss. Ben, tout de suite, ça a apporté quelque chose aussi. On a senti de la vitesse, on a senti du pressing. Avec Bakambu, on a vu deux, trois belles actions qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser aussi, mais qui auraient dû aller au bout. Le gardien a fait deux, trois beaux arrêts. À un moment donné, ça tire dans le petit filet, ça cafouille devant les cages. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose et tu sens que Klose va apporter quelque chose. Le petit Suarez aussi qui a fait son entrée, ben, tu sens que c'est un gars qui a envie, qui sait aller au pressing, qui sait aller mettre la pression sur les défenseurs, etc. Donc moi, j'ai vu quand même beaucoup plus de choses intéressantes et rassurantes que des choses négatives. Après, forcément, ça nous saute aux yeux quand, je ne veux pas retaper sur eux, mais quand tu vois deux défenseurs se faire balader par une des deux anglaises, même en match de préparation, se faire avoir comme ça, tu te dis, ouais, quand même, quoi.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tu vois, surtout sur des erreurs individuelles. Mais franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. On voit les idées de Tudor malgré tout. On voit ce qu'il veut faire. Après, voilà, il y a quelques. Tu te dis, est-ce que certains joueurs sont adaptés? Moi, Milik, même si c'est créer des occasions, etc. Ben, en deuxième mi-temps, quand tu vois un Bakambu ou même un Clause qui a joué très très haut quand même, ou un Luis Suarez qui peut prendre la profondeur. Bah, Payet, il a mis 2-3 caviar dans le dos de la défense et il te dit, oui, ben, on a plus besoin quand même d'un joueur dans ce style de jeu qui va prendre la profondeur que d'un grand attaquant qui attend dans la surface, entre guillemets, pour conclure, tu vois. Et c'est la seule chose qui me gêne un petit peu. Maintenant, quand on va avoir des équipes qui vont jouer à 11 derrière, le joueur qui prend la profondeur, ça risque d'être compliqué aussi. Donc, à
On va
voir.
avoir
À
besoin
voir.
de tous les profils, je
Ouais, c'est
pense,
ça.
cette saison, dépendamment du match et des adversaires contre qui on va jouer. Tu as parlé de la défense, tu as parlé de l'attaque. Parle-moi un peu du milieu de terrain. On avait au milieu de terrain la doublette Guendouzi-Rongier qui était là. Rongier qui retrouve son poste, hein, parce qu'on sait que l'année passée, il jouait plus en tant que piston droit slash milieu de terrain, un rôle hybride un peu bizarre où il a excellé. Comment on a trouvé cette doublette-là? Est-ce que Rongier au milieu de terrain, Rongier qui nous dérangeait hein, quand il était au milieu de terrain la première année où tout le monde disait que c'était de l'argent jeté par la fenêtre et ainsi de suite, est-ce qu'on a revu le Rongier de l'année passée ou celui de l'année d'avant?
Non, moi j'ai vu un bon Rongier. Je pense qu'il est à sa place et c'est un joueur il fait partie de ces joueurs qui ont énormément progressé l'année dernière. Maintenant, il est dans un rôle totalement différent aussi. Faut être clair, dans ce système-là, Guendouzi et Rongier, j'ai pas l'impression qu'ils sont amenés à se projeter énormément sur l'avant, quoi. On a vraiment deux ratisseurs qui sont là pour récupérer les ballons et pour faire les premières relances sur les côtés. Pour les pistons et pour envoyer devant, parce que tu as deux créateurs devant. Tu sens que Rongier va être là ben, pour couvrir le piston droit, Guendouzi pour couvrir le piston gauche, et qui sont plus dans ce rôle-là que vraiment à se projeter. Tu vois. Comme je te disais, quand tu vois Mbemba monter ou Isaac Touré monter, ben, tu te doutes bien que c'est eux qui font les compensations, en fait. Donc Rongier, dans ce rôle-là, il est top, parce que c'est ce qu'il a fait l'année dernière, en fait. Tu vois, cette espèce de milieu qui revient à droite pour couvrir, etc. Donc voilà, par contre, je trouve que pour Guendouzi, c'est dommage. Parce que Guendouzi, on l'a vu l'année dernière, quand il est plus haut, il peut énormément t'apporter, il est capable de faire pas mal de passes décisives, etc. Et que là, pour le coup, ça va être plutôt un travailleur de l'ombre. Et j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il soit bon. Par contre, on le verra beaucoup moins, quoi.
Ah, ça, c'est décevant, mais on verra à ce moment-là. Écoute, bon, défaite 2 à 0, on s'entend pour l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce qu'on écoute un peu ce qu'a dit Igor Tudor à la fin du match. Il a dit, écoutez, non, je ne suis pas inquiet, on est encore en préparation. Mbemba a juste fait 3 entraînements avec nous. On a eu une grosse séance physique il y a 2 jours qui était vraiment très, très lourde. Et puis en plus, il a dit, bah, écoutez, c'est même pas moi qui ai choisi les matchs amicaux et le calendrier en tant que tel. Moi, j'aurais choisi des adversaires un peu plus faibles pour que je puisse mettre en place mon système de jeu. Mais vous en faites pas dans le moment qui, dans le bon moment, quand les matchs vont compter, on sera prêt. J'en suis sûr et certain, on sera prêt. Est-ce que déjà le fait de se donner des excuses en disant c'est pas moi qui ai choisi les adversaires, le fait de dire ah il y a une grosse préparation physique, est-ce qu'on commence à penser que Tudor, malgré son discours de façade, est quand même inquiet? Ou est-ce qu'on est en train de se dire, ah, tu sais quoi, il doit remettre quelque chose en place? Il a même dit qu'il essaie de changer un peu la manière dont l'équipe joue. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut juste lui donner un peu plus de temps parce que c'est encore trop récent? Quel est ton avis par rapport à ça, toi, Ludo?
Moi, si tu veux mon avis, aujourd'hui, oui,
je ne poserai pas la question. Hein.
Il ne devrait même pas répondre à ces questions-là après des matchs amicaux, en fait. Pour moi, Adji, il y a encore 3-4 ans de ça, les matchs amicaux, ils n'étaient pas diffusés.
Je comprends.
Mais la question est posée,
il faut bien qu'il réponde.
Oui, mais c'est pour ça qu'il fait de la langue de bois et qu'il cherche aussi des excuses. Je pense que c'est vrai ce qu'il a dit, il n'y a pas de souci. Mais tu veux qu'il réponde de quoi? Ah ouais, on n'y arrive pas, c'est catastrophique, c'est bon, la saison elle est morte, on ne va pas y arriver. Non, il ne peut pas dire ça. Donc forcément, après, je suis d'accord avec lui, et tu le sais, toi qui suis le foot depuis très longtemps. On en a parlé aussi quand il est arrivé. Les préparations à l'italienne, ça n'a rien à voir avec ce que fait Sampaoli. Tu vois, par exemple, donc ce que Sampaoli voulait mettre en place et dans sa conception de préparation qui a 15 jours très exigeants et après qui monte en puissance et qui est beaucoup plus axé jeu que physique, ben, ça lui allait très bien. C'est lui qui a organisé ses matchs amicaux et il savait pourquoi il le faisait, il avait son schéma. Tudor, il arrive, on lui impose ça. Mais lui, il a sa façon de faire aussi. Et donc forcément, s'il fait des grosses préparations à l'italienne comme on l'a connu, ben oui, là, les joueurs, ils ont les jambes lourdes. Et tu l'as ressenti quand même pendant le match. Et c'est pour ça que les titulaires ont fait 45 minutes. Ben ouais, tu te dis, c'est normal, effectivement. Et tu l'as déjà vu ça pendant pas mal d'années. Où ben, les mecs, pendant les matchs de préparation, oui, ils ne sont pas prêts. Le but, c'est d'être prêt le 7 août. On s'en fout d'être prêt le 20 juillet, quoi. Donc moi je trouve ça normal, ces explications me paraissent logiques. Après, c'est vrai que je te rejoins, le côté c'est pas moi qui ai choisi, genre je commence à me trouver des excuses, ça m'emmerde honnêtement.
Et moi ça me rappelle Garcia, hein, quelque part.
Ouais, mais c'est ça, ça m'emmerde parce qu'effectivement il a raté sa com là-dessus, parce qu'il aurait pu se contenter de dire bah, on est en préparation, je suis pas inquiet, c'est normal. Ça va aller, mais là de dire.
Mais ça veut dire aussi, ouais, peut-être qu'il sent la pression dès maintenant, hein, mais il ne sait pas
qui me gêne.
Où il est. Hein.
C'est ce qui me gêne, effectivement, je me dis, et tu le vois, on en a parlé, tu le vois sur les réseaux sociaux, même si ça ne représente pas la majorité, mine de rien, ben, tu sens qu'il y a la pression qui monte quand même par rapport à l'intersaison. Et ça me gêne, et il ne faudrait pas que lui il commence à se mettre la pression et à déjouer, à ne pas mettre en place ce qu'il veut faire pour être prêt rapidement, en fait, parce que ce n'est pas le but. Tu vois, en gros, de renier ses idées de jeu et de jouer à la Sampaoli pour commencer bien le championnat, etc., ça serait dommage.
Ouais, mais c'est difficile, même. Je trouve que c'est tellement difficile pour un entraîneur comme ça. Mais après, lui, il a accepté le challenge. L'important, c'est qu'il réalise qu'il a accepté le challenge et qu'il remarque la grandeur de ce club-là, que tu as accepté, un challenge qui est très, très, très compliqué, où la pression et les attentes de la part des supporters est très élevée pour les moyens que le club a.
Honnêtement,
si tu n'es pas pile poil sur ta com, si tu n'es pas pile poil sur ce que tu veux faire, si tu n'as pas vraiment, tu n'es pas droit dans tes sabots, comme on dit, ou bien tu n'es vraiment pas, tu n'as pas des convictions extrêmement importantes, bah, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est ça qui est important, tes convictions. Tu dois être convaincu de ce que tu veux. Et si tu n'es pas convaincu de ce que tu veux, tu vas avoir du mal là, au sein de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de mal.
Je te rejoins à moitié parce que moi, déjà, la première chose, c'est que je ne peux pas lui en vouloir.
Je ne lui en veux pas.
Parce que c'est Longoria qui est venu le chercher. C'est lui qui l'a mis en poste. Et il arrive dans un contexte compliqué. Tu sors d'une super saison, d'un entraîneur que les gens adorent, etc. Il vient, il pose ses coups, il vient, il ne demande rien, il ne demande aucune garantie, il vient et il y croit. Donc ça, c'est la première chose. Et sur ça, franchement, il faut quand même lui dire bravo, merci et il faut y aller. Par contre, maintenant, c'est sûr que, OK, on va lui laisser un peu de temps à faire sa préparation, etc.
Ben oui, c'est sûr.
Par contre, s'il commence à avoir ce genre de réflexion en septembre en disant « Ouais, mais attendez, j'ai pris une équipe qui n'était pas faite pour moi au dernier moment, etc. Je fais comme je peux, me tombez pas dessus. » Et qu'effectivement, qu'il n'a pas compris la grandeur qu'est l'OM et ce qu'est l'Olympique de Marseille, ben là, je vais commencer à te dire « Ouais, je ne veux pas un Garcia 2 au niveau de la com, au-delà de ses résultats, au-delà de tout ça. » Et c'est ce qui me fait peur. Et c'est vrai que sa première interview, tu te dis « Putain, s'il commence comme ça, va falloir qu'il règle le tir parce que ça ne va pas le faire. »
Exact. Bref, tu sais, on a beau parler des difficultés du Garcia 2 et du fait que la tâche qui est devant lui est quand même extrêmement difficile, elle est presque peut-être insurmontable. Mais à la fin, c'est lui qui a dit oui aussi. Hein? Donc, bon, c'est vrai que c'est Longoria qui est parti l'amener, mais d'un autre côté, Igor Tudor, on ne lui a pas mis un fusil sur la tête en lui disant « tu signes ou sinon ». Donc, bon, après, on ne sait pas, peut-être. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même accepté. Donc, c'est important qu'il se rende compte qu'il est là, oui, parce que le club lui a dit que voilà ce qu'il va avoir, mais aussi c'est parce qu'il a accepté ce que le club lui a dit. Bref, j'ai hâte, je ne veux pas descendre, encore une fois, tu me connais très très bien, moi je ne juge pas l'équipe avant une dizaine de matchs, c'est ma façon de voir les choses depuis très très longtemps, donc dans les 10 premiers matchs, je laisse la chance au coureur, je veux voir ce qu'il est capable de faire, donc je vais rarement juger un entraîneur avant les 10 premiers matchs, que ce soit positif ou négatif, mais on verra bien ce que ça va donner à ce moment-là, point de vue des matchs amicaux, parce qu'on a deux matchs amicaux qui sont quand même assez importants, parce qu'Igor Tudor se plaignait du niveau des adversaires, comme quoi ils étaient peut-être un peu trop forts, il aurait choisi des matchs un peu plus faciles.
Non,
puis là, on se retrouve à jouer le Betis mercredi, puis l'AC Milan le dimanche.
Il parle d'équipes qui sont prêts physiquement parce que le championnat anglais reprend la semaine prochaine. Par rapport à l'OM qui est en pleine préparation. C'était de ça qu'il parlait.
Il a dit, écoute,
non, mais c'était dans ce sens-là.
On s'en fout.
C'était
moi, je n'interprète pas.
C'était pas de dire que c'était
ce que lui, il a dit. Ce que lui, il a dit, des champions. J'aurais choisi des équipes peut-être un peu plus faibles si moi, c'était moi qui avais choisi les adversaires, ce n'est pas moi qui les a choisis. C'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit juste ça. Donc, bon on l'interprète comme on veut. Donc, on verra. Donc, on a Betis, donc comme j'ai dit, mercredi le 27 juillet, puis Milan le 31 juillet, donc dimanche. Ça va être intéressant de voir comment l'Olympique de Marseille se comporte parce qu'après coup, on aura une semaine avant le début du championnat, donc Marseille-Reims, le dimanche 7 août, donc à 21h45, heure française. Est-ce que c'est 21h45? Non, 20h45, heure française, 2h45, heure de Montréal pour mes amis montréalais. Parlons de Pablo Longoria, mon ami Ludo. Pablo Longoria a fait quand même plusieurs coups dernièrement. On va parler un peu de ces coups-là. On va parler un peu du timing de ces coups-là aussi, c'est important. Mais aussi, on va parler un peu de ce qu'il n'a pas fait. Et ainsi de suite, on va dire que c'est un bilan jusqu'à présent, en attendant la suite, bien évidemment. Donc, dans les derniers jours, Pablo Longoria signe une doublure à Paulo Lopez, un autre Espagnol avec Ruben Blanco, qui vient du Celta Vigo. On sait qu'on a signé aussi Gel Van Neck il n'y a pas longtemps, qui a un espoir, qui a juste 18 ans, qui jouera avec la réserve, bien évidemment. On a parlé, Jonathan Klose, tu en as parlé un peu plus tôt, Ludo, qui est rentré face à Middlesbrough, donc l'international français, le piston droit, 29 ans, qui signe pour 3 ans, qui a dit que c'est un rêve de signer pour l'Olympique de Marseille, donc c'était quand même un gros coup, je pense le gros, gros, gros coup. On a parlé de Chancel Mbemba, on a un peu parlé de lui, donc quand même, un joueur avec énormément d'expérience, énormément de vécu, même si son âge pose question, énormément, énormément de vécu. Et juste après, on signe d'autres joueurs. Le premier de ceux-là, c'est Luis Suarez, t'en as parlé, le Colombien. Qu'est-ce que ça va donner? On n'est pas extrêmement sûr. Donc, un autre joueur qui vient signer pour l'Olympique de Marseille un peu plus en attaque. Voilà un peu les joueurs qui ont été signés dans les dernières semaines. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Je ne pense pas. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que tu penses de ces arrivées-là? Et aussi et le fait. Touré. Ouais, mais Touré, ça fait longtemps, on en a déjà parlé. Cela, on n'en a pas parlé. Donc voilà, Touré, ça fait quand même assez longtemps. Qu'est-ce que tu penses de ces signatures-là qui sont venues en 2 jours, je pense? Il y a eu 5-6 recrues qui ont été annoncées. T'en penses quoi? Le timing, le profil des joueurs, la qualité de ces joueurs-là?
Ben écoute, moi, ça me plaît parce que Mbemba, international, très expérimenté en Ligue des Champions, 2 années de suite dans l'équipe type du Portugal, qui pour moi aujourd'hui, championnat portugais, n'a rien à envier au championnat français. Donc, ça montre quand même quelqu'un qui est habitué à jouer avec des champions tous les ans. Klos, international français, même s'il vient de Lens, bah, il sait aussi ce que c'est la pression d'avoir du public et tout, mine de rien, mais c'est un international français. Et puis, c'est un profil. Alors, juste pour Klos, pour moi, tu vois, c'est ce qu'aujourd'hui l'OM a besoin. Un gars de 30 ans qui est sur l'accomplissement de sa carrière en arrivant à l'OM, en fait, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, l'OM a plus besoin de ce type de joueur-là que d'aller chercher des jeunes qui vont servir de l'OM sur la passerelle, pour faire passerelle et pour partir en Angleterre au bout de 2-3 ans, tu vois. On a besoin, et on l'a vu par expérience, hein, des Pagis, des Niang, etc., tu vois, qui arrivent un peu plus tard et qui, ben ouais, ils vont être l'apogée de leur carrière, ça va être l'OM, en fait, et qui ne cherchent pas forcément à aller plus haut. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Et puis, on connaît la qualité de Klos, on l'a vu, ça fait maintenant 2 ans qu'on le voit dans le championnat. Voilà, c'est le genre de recrue qu'on va avoir besoin. Luis Suarez, qui est international colombien aussi, ben, voilà, qui est un très bon joueur, qu'on voit, qui sait prendre la profondeur, qui sait faire beaucoup de choses avec le ballon, qui est vraiment un deuxième neuf pour moi, qui est très bon à côté d'un autre neuf, qui peut faire pas mal de choses. Il a juste une difficulté en finition, c'est dommage pour un attaquant, mais on va dire que ce qu'il a à gommer, c'est ça.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Donc moi, quand je vois ça, je me dis, et le gardien remplaçant. Mais bon, gardien remplaçant, on va dire, bon, il est pas là. Je ne sais pas si ça va être un bis ou un 2, mais si c'est un 2, c'est bon, pour qu'il joue la Coupe de France, à la limite, ce n'est pas grave. Malgré que, j'ai envie de te dire, l'idée peut être bonne de prendre un gardien en prêt comme ça, si tu prêtes Simon pendant un an, et l'idée, c'est de le faire revenir pour en faire une doublure de l'OM. Là, je peux le comprendre. Sinon, effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un deuxième gardien au lieu d'essayer de faire progresser un jeune du club? À voir. Mais moi, quand je vois ça, tu vois, de ce que je te disais, ben ouais, sur les 4 derniers joueurs, ben, tu en as trois qui sont c'est des internationaux. Et ben, du coup, ils savent ce que c'est les matchs à pression. Ils ont fait des qualifs de Coupe du Monde. Ils ont fait ça. Eh ben, moi, je suis content de voir ça. Et je me dis, ben, aujourd'hui, le recrutement, on a vraiment perdu. Allez, on a perdu Camara, Harit, Saliba et Mandanda. Bon, Mandanda, on va dire qu'il est remplacé. Saliba, quand même 3 défenseurs qui sont arrivés. Et je pense, moi, que Mbemba, ce qu'il perd en qualité par rapport à Saliba, il le gagne en expérience. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit perdant en change, si on parle vraiment que du sportif. Camara, ben, on attend sa doublure, on attend son remplacement, mais avec le nouveau style de jeu qu'on a, où il n'y a plus que 2 personnes au milieu, je pense qu'on sentira moins la différence. On serait resté sur ce schéma de Sampaoli, l'absence de Camara nous aurait fait très mal. Là, sur Tudor, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça me choque moins. Et Luis Suarez, il ne vient pas pour être titulaire. C'est quelqu'un qui va rentrer dans la rotation et qui peut nous apporter beaucoup. Moi, aujourd'hui, on présente une équipe qui a 12, 13 internationaux. Je me dis qu'on a quand même une équipe qu'on a une équipe pour faire quelque chose d'intéressant, quoi. Et qu'on peut se donner les moyens pour aller chercher un podium en Ligue 1 l'année prochaine.
Ouais,
Je vois pas l'équipe s'être affaiblie, en fait.
non, je suis d'accord. Quand je regarde les profils des joueurs, je ne vois pas l'équipe être affaiblie. Après, si lui s'arrête, ça devient un autre Clinton G. Ouais, je ne serais pas très impressionné non plus. Hein, donc, parce que Clinton, c'était un bon joueur, mais aussi qui avait de gros problèmes de finition. Donc, j'ai un peu.
Non, 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 je ne comparerais pas à Clinton Engie.
Ben.
Parce que Clinton Engie, c'était un tout droit. Sans cerveau, ça allait tout droit et ça allait vite.
Ben,
Suarez,
écoute,
c'est quand même autre chose.
moi je ne connais pas Suarez, mais on me parle et j'ai vu plusieurs personnes commenter que ça ressemble beaucoup à un autre Clinton Engie. Donc j'ai vraiment hâte de voir si
Non.
c'est juste.
Non, 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 honnêtement, physiquement, il peut jouer en pivot, même si ce n'est pas là où il est le meilleur. Il est capable de garder le ballon, il est capable de jouer intelligemment, d'aller au pressing, d'être un chien avec le ballon, de déborder, mais pas de déborder sur la vitesse. Il est capable de faire des passements de jambes, etc., de dribbler vraiment. Engie, pour moi, c'était vraiment que de la vitesse, hein. Il lançait loin le ballon et il était le premier à le récupérer, tu vois. Et c'est autre chose. Après, quand on dit qu'il a des problèmes de finition, oui, il les a. Mais on a aussi, je trouve, tendance à oublier que marquer 30 buts par saison, c'est pas normal. On a banalisé ça avec les stats de Messi, Ronaldo, Haaland, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui met 15 buts, ben demain, tu auras un joueur qui met 15 buts à l'OM qui joue sur le côté, par exemple. C'est pas mal. Qui met entre 10 et 15 buts, tu vas dire il fait une bonne saison. Donc,
Ben oui.
un joueur comme Suarez qui met 10 buts avec Grenade, qui joue le milieu de tableau, voire le bas de tableau en Espagne, moi je trouve que c'est des bonnes stats.
On verra. Moi, je ne connais pas du tout. Donc, on verra exactement ce que ça vaut. Après, j'aime beaucoup le profil des joueurs qu'on a amenés. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais encore une fois, j'ai envie de les voir avec le système de jeu Gertudor. Est-ce que pour toi, on parle beaucoup du fait que Pablo Longoria fait d'habitude de bons mercato, il y a beaucoup de contacts et ainsi de suite. Comment tu jugerais le travail de Pablo Longoria en fin d'année? Est-ce que c'est juste les résultats? Est-ce que c'est les performances des joueurs qu'il a recrutés? Est-ce que c'est les résultats de l'entraîneur? C'est quoi ton critère principal pour juger Pablo Longoria? Parce que personnellement, pour moi, et je vais en parler en premier moi-même, moi, c'est Igor Tudor. Pour moi, c'est le premier gros coup de la part de Pablo Longoria. Quand je veux dire qu'un gros coup, c'est. Il avait ramené Sampaoli, c'est quand même assez simple parce que quand tu es un peu dans l'ombre, c'est la première fois, tu es un peu l'inconnu et ainsi de suite. Tu amènes un entraîneur quand même expérimenté, connu par beaucoup de personnes et ainsi de suite. Il y a l'aura de Jorge Sampaoli qui est venu. Bon, c'était un bon coup, mais le fait de dire à Sampaoli, écoute, je ne pourrais pas te donner ce que tu veux, de s'entendre à ce qu'il s'en aille, puis signer quelqu'un d'autre, pour moi, ça c'est un gros, gros coup. C'est un moment, je pense, charnière de la période de Pablo Longoria en tant que président. Et je pense que c'est un peu un coup de dé, c'est un peu. C'est une grosse chance que Pablo Longoria prend avec Igor Tudor. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si ça va marcher, parce que jusqu'à présent, en général, le bilan de Pablo Longoria, depuis qu'il est président, est quand même très positif. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou pour toi, quel est le point sur lequel tu vas plus juger Pablo Longoria en tant que président?
Il y a beaucoup de choses. Honnêtement, cette année,
Si
elle est
tu as à
importante.
choisir une seule chose, elle est là la question.
Moi, ce que je vais commencer, c'est moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on ait enfin une stabilité dans ce club, qu'on ait un projet clair qu'on arrive à développer sur plusieurs années. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc, effectivement, l'entraîneur va être important parce que si c'est planté et qu'en décembre, tu changes d'entraîneur, ben, tout ce qu'il fait, ça va être compliqué. Parce qu'il va perdre aussi de la crédibilité, etc. Et il va avoir du mal à faire venir aussi des joueurs dans un projet. Parce qu'il va dire, attends, gars, tu es président de l'OM, mais t'as viré avec Villas-Boas quand tu es arrivé. Sampaoli, vous n'êtes pas entendu. Avec Tudor, ça ne marche pas. les joueurs ils vont commencer à se poser des questions aussi sur le recrutement des entraîneurs à l'OM, tu vois, et sur le projet qui va être fait. Donc, effectivement, ça va être une charge, quelque chose de positif, d'important à voir si ce n'est pas planté sur l'entraîneur. Moi, après, ce que je l'attends aussi, ça va être à partir de l'année prochaine sur les ventes de l'OM. Là, on sait qu'il est encore emmerdé par le passif de héros sur des joueurs à gros salaire qui ne veulent pas partir, qui n'arrivent pas à vendre et qu'il est obligé de casser des contrats, de donner, de faire ce que tu veux pour s'en débarrasser parce qu'ils n'ont aucune valeur, ces joueurs-là, et que c'est très compliqué. Il y a eu le cas Camara, là, il y a le cas DCC qui est compliqué aussi. Donc, moi, ce que je l'attends aussi, ça va être, oui, effectivement, les joueurs qu'il a pris l'année dernière, qui vont avoir fait 2-3 ans, de pouvoir les valoriser, de vendre un Guendouzi 50 millions, de vendre un Gerson 60 millions, de, tu vois, des joueurs qu'il a réussi à faire grandir, qu'il a recruté lui, et qu'on fasse des sacrés plus-values, qu'on arrive après à avoir de quoi ben, continuer à refaire une équipe, à la faire grandir, à évoluer, en vendant 2 joueurs par an, tu vois, mais en les vendant à 50, 60 millions, on va dire. Et de pouvoir te racheter 3-4 joueurs derrière qui vont te permettre de grandir sur des postes qui te manquent, etc. Donc moi, je l'attends sur ça, sur vraiment sur la gestion de son club, sur la gestion du club au niveau financier aussi, pour avoir les mains libres, parce qu'on s'entend que jusqu'à présent, c'était compliqué. Donc c'est sur ça que je l'attends. Et forcément, ben, c'est les résultats. Hein. Si on va en 8e de finale de Ligue des Champions et qu'on finit 2e, ben, tu es là, bravo, merci président, et on continue comme ça. Si par contre ben, tu finis quatrième, tu te fais exploser en Ligue des Champions, Coupe de France, tu perds contre Avranches au premier tour, ben, tu vas te dire c'est bon, on repart dans les mêmes années, le crédit qu'il avait c'est fini, on repart comme il y a 2 ans et comme il y a depuis 10 ans. Quoi.
Ouais. Ben, encore une fois, tu as donné une réponse au politicien, je t'ai demandé une chose, puis tu m'as donné 5 choses. Si, encore une fois, je répète la question, tu as à choisir une seule chose sur laquelle juger Pablo Longoria, quelle serait la chose? Une seule.
Sur la valorisation de l'effectif. Moi, je l'attends là-dessus.
Parfait. J'aime beaucoup cette réponse. Parlons un peu des départs. Est-ce qu'on peut être inquiet? On est le 24 juillet, on parle beaucoup du championnat anglais, le mercato du championnat anglais, il ferme avant même la première journée, donc c'est bientôt. Est-ce qu'on doit être inquiet? On a encore Alvaro qui est encore là. On sait qu'il ne devrait pas rester ici. On a Chaita Sarr qui est encore là, Jordan Amavi qui est encore là. Paul Irola, beaucoup de personnes disent qu'il est sur le départ, il est encore là. On a des joueurs comme Kevin Strootman qui est encore là. On parle beaucoup de peut-être Milik qui s'en irait, peut-être Bamba Dieng qui s'en irait. On sait que Bamba Dieng n'a pas joué dans le dernier match. Est-ce que tout ça, ça t'inquiète, le fait que l'Olympique de Marseille n'arrive pas à vendre, même à rabais? Parce que honnêtement, si tu regardes un peu les départs du côté de l'Olympique de Marseille, actuellement, on a Lucien Riquet et Radonjić qui sont tous les deux prêtés avec option d'achat obligatoire. De ce que j'ai compris, ces joueurs-là, c'est Marseille prend en charge quand même une partie de leur salaire. Donc, est-ce que tu les as vraiment vendus? Pas vraiment, parce que c'est encore prêté. Sinon, le seul joueur vraiment vendu, c'est Lucas Perrin pour 1,5 million d'euros. C'est tout. Parce que même Steve Mandanda, je pense qu'ils ne vont jamais le dire, mais il est parti libre, on s'entend, pour service rendu. Donc,
on le sait qu'il est parti libre. Voilà. Ça a été dit. Donc, c'est pas un souci.
Non, voilà. Mais, donc, ouais, bref, finalement, on n'a vendu personne.
En fait, ouais, mais c'est ça qui m'emmerde. Mais on en revient à dire, ça, tu ne peux pas en vouloir à Longoria, en fait. Et c'est pour ça que moi, je te dis, j'attends sur la valorisation de l'année prochaine.
Parce moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, j'en veux à Longoria. Parce que Longoria a été vendu comme quelqu'un qui serait capable, et qui a énormément de contacts, qui serait capable de trouver des clubs à ces joueurs.
Mais ça, il les trouve, les clubs. Mais un Strootman qui gagne 500 000 euros à Marseille, quand tu lui trouves un club à 300 000, comment tu veux qu'il accepte? Tu ne peux pas lui mettre le couteau sous la gorge non plus à un moment donné, tu vois. Les portes de sortie, ils donnent. Mais tu as des gars qui n'ont rien à foutre, qui n'ont pas envie de jouer.
D'accord, tu parles de Strootman, mais moi je te parle de Douillet. Douillet, à un moment donné, il a eu une offre de Liverpool qu'on a refusée. On ne va pas refaire tout le feuilleton, mais on a refusé une offre de Liverpool.
Ça, c'était une connerie. Mais à ce moment-là, toi, tu te vois vendre Kaleta Char à ce moment-là?
Ben, moi, je pense que dans la position dans laquelle est l'Olympique de Marseille, dès qu'il y a une offre, n'importe quel joueur, qui est une offre conséquente, ben, il faut le vendre. Il faut vendre les joueurs. Si maintenant, tu as Gerson qui reçoit une offre pour 50 millions, tu ne le vends pas? Moi, je le vends aucune...
Non, mais attends, Adji, c'est pas pareil. Là, je suis d'accord avec toi. Même si demain, Guendouzi ou Gerson, on me propose 50 millions, tu vends. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a pas
de c'était ça, le Douillet, oui, mais... c'était une offre de 40 millions, si je me rappelle bien.
Oui, mais Poulet, c'était au mois de janvier.
Je m'en fous. On est l'Olympique de Marseille. On est un club qui essaye de retrouver une certaine stabilité, que ce soit financière, que ce soit dans le monde du foot.
Sur le principe, et après coup, je suis d'accord avec toi. Mais sur le coup, tu te dis, putain, on finit comment la saison, quoi?
Bah, on aurait acheté un autre défenseur central, puis on aurait fini du mieux qu'on peut. Je pense vraiment que Douillet aurait changé tout. Je ne pense pas. En tout cas, il n'a pas changé tout. Je pense que cette saison-là, on finit quatrième.
Non, c'est la saison où on finit deuxième avec AVB. Hein. C'est la saison où on finit deuxième avec AVB.
Ah ouais, t'as raison. Mais bon, même là, on a vu comment ça s'est terminé avec AVB.
Donc donc voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Après coup, je te dis, il faut le vendre. Maintenant, quand tu es en pleine saison, je pense que tu essayes de réfléchir aussi aux sportifs et peut-être qu'ils n'avaient pas de solution pour le remplacer et que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas laissé partir.
Mais il est là, le problème. On n'avait pas de solution pour le remplacer. Actuellement, de nos jours, un directeur sportif, quel qu'il soit moderne, doit avoir des listes de joueurs sous la main pour remplacer n'importe lequel de ces joueurs. C'est ça, oui, maintenant, le travail d'un directeur sportif.
Tu le vois, c'est ce qu'il fait. Et tu l'expliques qu'il travaille comme ça. Il a déjà toute sa liste de joueurs. Il a des joueurs qui suivent.
Voilà, donc tu vends n'importe qui, tu vas trouver son remplaçant.
Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était dans les derniers jours du mercato, etc. Et qu'il n'y avait pas le temps, tu vois.
Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Financièrement, c'était une grosse connerie. Mais... voilà, moi, j'ai du mal à parler sur des choses où on n'a pas tous les aboutissants. S'il n'a pas fait, il connaissait la situation du club. À un moment donné, s'il n'a pas lâché, c'est qu'il y avait une raison derrière. Il n'est pas fou non plus, tu vois.
Je comprends. Bon, actuellement, c'est qui doit s'en aller le plus vite? À part, Alvaro Strootman, c'est sûr. Mais c'est qui?
À ma vie. Parce
qu'il a joué contre Norwich. Donc, ça a l'air que quelque part...
Il n'a pas joué. Il était sur le terrain. Il n'a pas joué.
Parce que Strootman n'a pas joué et Alvaro n'a pas joué, donc est-ce qu'on peut penser qu'à ma vie, quelque part, Tudor pourrait peut-être compter sur lui?
Non, parce que dans ses choix, tu vois bien que c'est Kolasinac qui a commencé dimanche.
Ouais, mais
et que tu sais que tu sais que tu vas prendre un piston. Tu le sais que tu vas avoir un piston gauche. On ne sait pas qui encore, mais tu l'auras ton piston gauche.
Mais si tu ne vends pas, tu penses que tu vas quand même recruter deux autres joueurs pour encore entasser des joueurs,
Tu es obligé. Tu ne peux pas commencer la saison sans... Je m'en fous. Tu ne peux pas commencer la saison sans piston gauche. Ce n'est pas possible. Sans un
piston gauche. Il y a Mavi et Kolasinac.
Non, tu ne peux pas.
Bah, ils sont là.
Tu peux pas. ils sont là, mais tu ne peux pas. Sportivement, ça ne tient pas la route. Donc, tu es obligé de recruter.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Donc après, il fait comme il veut. Il explose la masse salariale. C'est pas mon problème. Mais tu es obligé d'avoir un piston gauche. Et
ça,
tu l'auras
c'est ce que tu veux. Ça, c'est ce que tu veux, Ludo.
Il peut pas. Tudor, il peut pas accepter de commencer. Il acceptera pas de commencer la saison sans piston gauche.
Bah, il a des pistons gauche. Il a Kolasinac et Amavi.
Non mais Adji.
Ludo. Moi je te dis que.
Adji.
C'est pas comme s'il avait pas fait jouer.
Moi aussi. Demain je peux signer piston gauche.
Toi c'est Aprouzès. Comment il s'appelle toi? Aprouzès.
Non mais.
C'est quoi son nom? C'était quoi son nom?
Fabrice Abrousses.
Voilà, lui. Mais, toi, c'est lui.
Mais tu vois ce que je veux dire?
Il a quand même joué.
Donc, ça veut dire, ouais, mais voilà. Donc, moi, ça veut dire demain, je signe un contrat piston gauche. Tu vas dire, eh, non, mais c'est bon, il y a Ludo dans l'effectif, on recrute d'autres personnes.
Bah, actuellement, tu as quand même un piston gauche. Et est-ce que. Moi, ce qui me fait un peu peur, très honnêtement, pour revenir un peu au sérieux, c'est d'entasser les joueurs. d'avoir 30-35 joueurs et qu'à ce moment-là, on ait une dizaine de joueurs qui sont là, qui sont sous contrat et qu'on n'arrive pas à vendre. Et on se retrouve à un moment à commencer la saison avec 35 joueurs. Le mercato ferme, on est encore à 35 joueurs. Puis là, à ce moment-là, ces 10 joueurs-là, ils commencent à s'énerver, ils commencent à pourrir le VCR. Moi, ça, ouais, ça me dérangerait beaucoup. Donc, actuellement, pour moi, je ne vois pas comment je recruterais un piston gauche si jamais je n'ai pas vendu à ma vie.
Ben oui, mais le problème, c'est que tu peux le prendre à l'envers. Tu te dis, mais si tu ne recrutes pas de piston gauche, à ma vie, il va se dire, ouais, mais c'est bon, il n'y a que Kolasinac, je vais jouer au moins 15 matchs dans la saison, ça me va. Donc, je ne pars pas. Alors que si tu en recrutes un, tu lui dis, écoute, à ma vie,
mais il n'y a personne qui le demande, même. C'est pas comme si j'avais le choix.
Tu lui dis, écoute, à ma vie, tu es le troisième choix, tu ne vas pas jouer une minute cette année. Ben, le gars, il va peut-être commencer à réfléchir, tu vois. Donc, tu peux le voir aussi comme ça. Mais à un moment donné, tu peux pas commencer la saison avec Kolasinac, à ma vie. Si tu ne peux pas avoir.
Mais Ludo, on s'entend que je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense pas que tu. Genre, ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie de regarder ça de manière objective. Et je me dis qu'actuellement, pourquoi j'irais amener un troisième piston gauche? J'en ai deux.
Non. Oui, d'accord.
Donc, laisse-moi vendre un, puis je vais amener un autre. Parce qu'actuellement, oui, on est sur Lazovic, même s'il paraît qu'il y a du plomb dans l'aile dans cette rumeur-là.
À droite, tu pourrais dire pareil. Alors, ben, on avait Under et Lirola. Pourquoi on va prendre Klos?
Mais non. On a juste Lirola et Klos maintenant.
Non, mais Under, il le fait.
Mais non, Under peut jouer derrière Milik. On s'entend. Ça n'a rien à voir.
Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, dans ta logique,
À ma vie, ne peut jouer autre part que piston gauche. Donc, essaye pas de jouer avec moi, là.
Il peut faire la doublure de Touré aussi, alors.
Oui, ok, ouais, non. On va être un peu plus sérieux. Regarde,
Vend, alors, dans ta logique, on vend Kaleta Tsar, on fait redescendre à ma vie comme défenseur et on prend un piston gauche.
Mais non, mais à ma vie, il n'est pas défenseur. Il est piston gauche. Under n'est pas piston droit, il est milieu offensif.
Pour l'instant, il joue piston droit
parce que c'est pas prêt, parce que Lirola il est trop occupé à aller faire toutes les boîtes de nuit de Marseille, donc ça c'est différent. Mais
je sais pas où il va, parce que moi je le croise jamais, en tout cas. Tout le monde me dit qu'il est en boîte, mais je le croise jamais.
Bon, tu vas pas aux bonnes boîtes, Ludo.
Ouais, ça doit être ça.
Je pense pas que tu as les mêmes moyens que Paul Lirola aussi. Donc, à part si je me trompe. Mais bon. Maintenant, on a encore ces deux matchs amicaux. Est-ce qu'on se doit de voir de meilleurs résultats ou est-ce qu'on se dit, on s'en fout, c'est deux matchs amicaux, puis l'important, c'est le 7 août. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que, très honnêtement, moi, si jamais on a de nouveau deux défaites de 3-0, je m'inquiéterais vraiment beaucoup, même si c'est juste des matchs amicaux.
Moi, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Le but, c'est d'être.
Je m'en fous aussi, mais ce serait quand même inquiétant.
Le but, c'est d'être prêt le 7 août. Après, ce qu'on veut voir, c'est de la progression.
Mais ce serait pas inquiétant. Tu serais pas du tout inquiet si on perd deux fois 3-0 encore?
Ça dépend comment. Ça dépend si tu fais une revue d'effectifs complet, que tu fais encore jouer 45 minutes les remplaçants. Non. Si tu.
Tu peux plus faire jouer 45 minutes les remplaçants.
D'accord. Si par contre, tu commences à avoir ton équipe titulaire, que tu vois que physiquement, ça va mieux, etc. Par contre, qu'ils ne s'entendent pas sur le terrain, qu'il n'y a aucune cohérence, que machin et tout, là, oui, je vais m'inquiéter. Mais si tu veux, ça va être plus sur le contenu, en fait. Ça va être sur ce que je vais voir. S'il n'y a vraiment aucune créativité, s'il n'y a aucune entente, si les placements ne sont pas bons du tout, etc. Là, oui, je vais commencer à m'inquiéter. Après, on peut perdre 2-0. Si tu vois, ben, tu te prends comme au Middlesbrough, là, tu te prends deux buts sur des faits de jeu à la con, mais qu'au final, tu as dominé toute la première mi-temps, tu vois que tes joueurs... ils comprennent ce qu'ils veulent faire, que le principe de jeu est clair, etc. Non, je ne serais pas inquiet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu, ce n'est pas le résultat. Après, c'est sûr qu'on ne va pas se cacher. Si tu gagnes 3-0 tes deux matchs, ben, ça te donne de la confiance, tu commences le championnat un peu plus dans une vibe positive, etc. Ça va calmer aussi les supporters, parce que voilà, c'est con, mais le contexte marseillais, il est à prendre en compte. Et qu'effectivement, si tu te prends un 3-0 contre Milan à domicile... dans une semaine, ben, tu peux entendre le Vélodrome siffler à la fin des matchs amicaux. Et ça, je pense que pour le moral de tout le monde, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais voilà, non, moi, ce que j'attends, c'est de voir de la progression et de voir qu'il y a quelque chose de cohérent qui se met en place et de se dire, ben, on est sur la bonne voie, quoi, plus que le résultat.
Ouais, bon. Écoute, très honnêtement, en théorie, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'en pratique, ce serait important d'avoir des résultats, un pour le moral, pas juste des supporters, puis je parle des supporters, mais même le moral des joueurs. Je pense que les joueurs, ils travaillent très, très fort. Ça a l'air qu'il y a une grosse préparation. À un moment donné, il faut aussi les récompenser de leur effort. Il faut aussi qu'ils soient récompensés. Donc, les résultats, c'est important. Je pense à un match contre Betis, une victoire contre Milan. Puis à ce moment-là, même le mental et le moral de cette équipe-là sera bien plus près. Tandis que si jamais tu perds encore deux matchs, ben, tu commences un peu avec le moral dans les chaussettes. Même si...
Après, ça dépend comment tu le perds, le match. C'est toujours pareil.
Je pense aussi qu'au fur et à mesure, ça commence à rentrer dans la tête des joueurs, même si c'est juste des matchs amicaux. Que tu perds 4 de tes 5 matchs amicaux, crois-moi, ils ne veulent pas tout casser. Hein. Arriver au premier match, ils sont juste déçus, ils ont peur. C'est humain, quelque part. Hein. Donc, bref.
Alors, ouais, après, honnêtement, le Betis, c'est censé être de notre niveau. Le Milan... normalement, c'est quand même supérieur. C'est censé être quand même supérieur à nous. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de... Même en pleine saison, hein, tu vas jouer en Ligue des Champions, tu te retrouves avec le Milan dans le groupe, tu perds contre Milan, tu trouves ça catastrophique, toi?
Très honnêtement, oui, non, je ne trouverais pas ça catastrophique, mais d'un autre côté, je ne trouve pas que c'est... On n'est pas dans la crème de la crème. Hein. Je ne serais pas surpris non plus que l'Olympique de Marseille puisse faire jeu égal avec l'AC Milan. Hein. Tu regardes l'effectif de l'AC Milan, tu as à peu près 3-4 joueurs qui sont au-dessus de 35 ans. Tu as quand même quelques bons petits jeunes, oui, mais sinon, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire non plus.
C'est quand même les champions d'Italie, quoi, excuse-moi.
Oui, mais on s'entend. On s'entend que c'est les champions d'Italie, mais on s'entend qu'il n'y a pas une locomotive qui est capable de dépenser 600 millions non plus dans le mercato. Hein, donc,
on est d'accord.
Donc, oui, tu es champion d'Italie, oui, mais tu es quand même l'AC Milan, une équipe qui, encore une fois, a Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, des joueurs qui sont quand même assez, assez vieux devant.
Ouais, donc, c'est simple. Tu as le choix entre Milik, Giroud ou Zlatan, tu mets qui devant?
Actuellement? Ah, je mets Milik. 100%.
Ouais.
Ah ouais, 100%. Ouais, 100%. 100%. Honnêtement, non.
Ben, moi, je te dis, je mets
pour une équipe qui est en reconstruction, moi, je mets no way. Impossible que je mette un vieux comme ça. Aucun moyen.
Et tu pour mets moi, un Milik qui est blessé 6 mois dans l'année. Toi.
Ben, tu me dis qu'ils sont tous disponibles parce que Zlatan aussi, il est blessé 6 mois dans l'année. Donc, bon, c'est pas mieux. Hein. Mais bon. Parlons un peu, il y a une phrase que j'ai lue, un article que j'ai lu dernièrement et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'était l'analyste Thibaut Leplat, je pense, qui disait qu'à un moment donné, dans le système Igor Tudor, et j'aimerais, toi qui as vu le dernier match, moi j'ai vu juste celui de Norwich, à un moment donné, le système de Tudor va faire en sorte que l'OM va jouer juste le contre. Et j'arrive à comprendre pourquoi il dit ça. Parce que tu as quand même 3 défenseurs centraux, 2 milieux défensifs qui ne se projettent pas devant. On a l'impression qu'on va jouer vraiment en contre-attaque à un moment donné. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce qu'on voit encore un nouveau cycle où AVB, un peu dans le temps où AVB, où il a dit bah oui, on va jouer beaucoup moins offensif la deuxième année parce qu'on est en Ligue des Champions et parce qu'on a peur. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi un peu ce côté, cette envie d'avoir un jeu beaucoup plus terne, beaucoup plus pragmatique de la part de Longoria, Tudor et tout le monde parce qu'on joue contre les grands en Ligue des Champions?
Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord parce que de ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. Moi, ce que je me rappelle, je reviens un peu en arrière, mais Longoria, quand il a pris son poste de directeur sportif, sa première interview, c'est qu'il a dit qu'il voulait de la verticalité. Il a toujours parlé de cette verticalité, de se projeter vite vers l'avant, d'avoir des joueurs qui jouent en profondeur, etc. Luis Enrique était le parfait exemple. Et son idée, c'était de recruter ce style de joueur-là qui se projette très rapidement pour l'avant. Mais moi, de ce que j'ai vu de Tudor, c'est pas ça. Hein. C'est... Alors, si après, récupérer un ballon à 30 mètres dans le cas inverse sur un pressing et aller marquer, ça s'appelle une contre-attaque, je veux bien. Mais pour moi, c'est pas ça. Et de ce que j'ai vu, c'est ce que Tudor essaye de faire. Donc, est-ce que pour moi, une contre-attaque, c'est vraiment tu as un bloc bas hyper bas et tu récupères ton ballon, tu mets un grand ballon devant et tu as une flèche devant, tu as Usain Bolt devant qui fait le sprint pour les récupérer et faire un face-à-face en gardien. Pour moi, c'est ça, jouer en contre. De ce que j'ai vu, c'est pas ça, hein. On est plutôt un bloc haut, on récupère haut le ballon et tu te projettes très très vite vers l'avant. Est-ce que pour toi, on va dire, allez, en exagérant un peu, est-ce qu'une équipe comme Liverpool, c'est une équipe qui joue en contre pour toi?
Ah non, non, complètement pas. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas une
Tu
équipe qui
vois?
joue en contre. Mais je
Donc,
comprends un peu les deux. Je pense que
pour
bon,
moi,
on n'a pas le
c'est une
talent, on
équipe.
n'a pas le talent de l'équipe
C'est.
de Liverpool.
Non, mais c'est une équipe qui va récupérer haut et qui va se projeter vite vers l'avant. Pour moi, ce n'est pas ça une contre-attaque. Par contre, c'est vrai que du coup, tu as un profil où ça va aller très très vite. Où dès que tu récupères le ballon, ça va aller très très vite. Maintenant, tu ne vas pas récupérer. Tu n'es pas censé, ça va arriver, mais tu n'es pas censé récupérer ton ballon dans les 20 mètres. Tu vois? Est-ce que
D'accord.
Lens, c'est peut-être ça, allez. Parce que Liverpool, c'est peut-être au-dessus. Est-ce que le Lens de l'année dernière, pour toi, c'était une équipe qui jouait en contre-attaque?
Je comprends ce que tu veux dire. Un peu, mais pas c'était pas Brest non plus.
Tu vois, voilà. Donc, c'était pour moi, c'est pas du Der Zakarian, c'est pas du Galtier, c'est pas tout ça. C'est vraiment une équipe qui se projette rapidement sur l'avant, mais qui joue haut et qui a des intentions de jeu offensif, qui n'est pas juste à attendre derrière et à
Mais on
vouloir aller
sera
marquer
plus
tout ça.
l'équipe qui est dominante, qui a le ballon, qui a la possession, qui fait le jeu. On sera plus l'équipe qui va attendre la faute de l'adversaire pour se projeter vite vers l'avant tout en jouant haut. Donc on
Alors,
s'entend qu'il y a quand
moi.
même un clash entre ce qu'on était et ce qu'on a aimé, là où on a kiffé, par rapport à ce qu'on s'attend à voir sur le Gartuda.
Ouais, mais tu vois, regarde, si tu prends l'exemple de Sampaoli, les 6 premiers mois qu'il a fait à l'OM, où c'était plus le style de ce que veut faire Tudor, avec les deux pistons, tu te rappelles, où on avait Lirola, etc. Où on se projetait très vite sur l'avant aussi, sur les côtés, ça allait très rapide et ça centrait. On va plus se rapprocher de ça. Après, Sampaoli, il a eu l'intelligence de dire, OK, la Ligue 1, ça joue avec des blocs bas, c'est compliqué. Même s'il aime bien le jeu de possession, il en a un peu abusé parce qu'il n'avait pas le choix au final. Moi, demain, et c'est la seule chose qui me gêne avec Tudor, et j'espère que autant Longoria que lui l'ont pris en compte, c'est la spécificité de la Ligue 1. Parce que justement, tu en parlais, quand tu te retrouves contre Brest avec, ou Strasbourg, là, avec 11 joueurs dans les cages, ta verticalité, ta profondeur, tu vas la trouver comment? Aller au pressing sur les défenseurs adverses qui ne vont pas garder le ballon. Tu vas faire comment à ce moment-là?
Non, je
Et
suis d'accord.
c'est là où j'attends Tudor. Et je me dis, heureusement qu'avec le travail de possession qu'on a fait l'année dernière, nos joueurs vont quand même avoir l'intelligence et les réflexes pour avoir cette capacité-là aussi à un moment donné de garder la balle et de jouer un peu différemment aussi. Tu
Ouais,
vois? Parce
je
que
comprends.
comment tu joues sur ces blocs bas qu'on a cités? Ben, tu vas aller faire le pressing sur les défenseurs. Tu vas essayer de récupérer où? Ben, ça ne sert à rien, en fait. Tu ne pourras pas te projeter derrière. Donc, et tu ne vas pas les attendre non plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là contre ces équipes-là? Ben, écoute,
Ça va être intéressant.
réponse contre Reims, parce que ça va être exactement ça dès le premier match de la saison.
En tout cas, je pense qu'on est tous les deux d'accord, mon cher Ludo. Les 10 premiers matchs, on ne juge pas. Après 10 matchs, on fait notre premier bilan, je pense, de ce qu'est capable d'amener Igor Tudor. On a hâte, je pense, très honnêtement. J'en ai marre, les matchs amicaux. Bon, ça me gonfle un peu. Mais on va quand même voir ces 2 matchs-là. Je vais essayer de voir les 2 matchs-là contre Bétis et l'AC Milan. Ça va être quand même intéressant de se voir confronté avec de grandes équipes comme ça. Ludo, je pense qu'on peut clôturer ce pod-là, à part si tu as un dernier message ou un dernier mot à dire.
Non, juste, ça reste des matchs de préparation et voilà, qu'on reste confiant et qu'on attaque la saison de façon positive après une superbe saison. On aura le temps de critiquer, on aura le temps de s'énerver, mais pour l'instant, ben, qu'on aille encourager notre équipe et on est tous impatients que ça commence et on verra bien. Le juge de paix, ça sera à partir du 7 août.
Exactement. Moi, j'ai très, très hâte. En tout cas, j'ai reçu de super beaux cadeaux de la part de mes amis Julien et Ludo parce que j'ai gagné un des 2 paris qu'on avait fait l'année passée. J'ai reçu de super, super beaux cadeaux et j'ai hâte de les porter et de porter ces couleurs très, très haut. Merci encore, Ludo, d'avoir été là. On salue notre ami Julien qui est en train de se dorer au soleil. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fossés en Amérique.